Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Taoufik Djebali. Bonjour, monsieur Djebali. Vous êtes spécialiste des relations extérieures américaines, maître de conférences en civilisation américaine à l'université de Caen, Normandie. Vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en civilisation américaine à la Sorbonne, l'auteur de nombreux articles. Vous êtes en quelque sorte en cette période, j'allais dire, si on fait appel à vous, c'est pour être... On fait appel toujours à des spécialistes de l'Ukraine ou de la Russie, mais là, je suis content d'avoir une personne qui va aussi être une sorte de psychiatre de la mentalité américaine face à cette situation. Et c'est ce qui m'intéresse aussi.
Oui.
On sait que la majorité des Américains, actuellement, l'opinion publique n'est pas très pour une intervention. Pour eux, d'abord, l'Ukraine, la Russie, bon, ils voient où est la Russie, évidemment, sur une carte. L'Ukraine, oui. Ils ont découvert son existence, voilà, il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines.
Oui.
On voit l'état de Joe Biden, qui est un homme très fatigué, qui suit un peu peut-être qui se laisse guider peut-être par les faucons. On voit ses déclarations de dire on va pas envoyer des troupes sur le terrain. Alors, est-ce déjà un bon résumé? Est-ce que vous le partagez?
Oui, un petit peu, oui. Même si je pense que les Américains connaissent plutôt bien les Russes, parce que ça leur rappelle un petit peu l'Union soviétique, qu'on associe très souvent à la Russie, plutôt qu'à cet ensemble de pays qui faisaient l'Union soviétique. Donc la Russie, elle est très très bien connue aux États-Unis, et ça fait plutôt peur. Et même au 19e siècle, d'ailleurs, il y avait des présidents américains qui parlaient de la Russie, de la dictature russe. Donc, les Américains ont plutôt une bonne connaissance de la Russie, mais je suis tout à fait d'accord, ils ont une connaissance extrêmement limitée de l'Ukraine. Donc, à part les gens qui, peut-être, dans leur vie de tous les jours, rencontrent des immigrés d'origine ukrainienne, à part ces gens-là, il n'y a pas vraiment une bonne connaissance de l'Ukraine.
On nous dit beaucoup que les Américains veulent maintenant se concentrer sur l'Asie, sur la question de la Chine, que l'Europe n'est plus une priorité pour eux. Est-ce que l'Europe peut redevenir une priorité si les événements devaient se corser?
Oui, à mon avis, là, la question chinoise, c'est certes, les Américains pensent toujours à la question chinoise, à part la question économique. C'est une relation économique extrêmement tendue. La question de Taïwan, c'est une question extrêmement importante pour les Américains. Maintenant, on a oublié un petit peu la question de Taïwan parce que ces derniers mois, la tension était à son comble entre les Américains et les Chinois à propos de Taïwan. Aujourd'hui, vu les événements en Ukraine, c'est sûr que le regard et la tension des Américains maintenant se dirigent vers l'Europe. L'Ukraine, c'est l'urgence. Cela dit, il y a toujours, si la situation se passe bien, entre guillemets, pour Poutine, c'est que les Américains devraient faire attention à ce qui va se passer à Taïwan. C'est que ça va peut-être donner des idées aux Chinois. Et dans ce cas-là, les Américains regardent l'Europe sans oublier la question chinoise.
Et c'est important tout cela. Ça veut dire, est-ce que là, on est dans des circuits de jours, d'heures, on va dire de semaines, les Américains ne peuvent pas envoyer, ou peuvent-ils, je vous pose la question, peut-être envoyer 100 000 hommes, 200 000 hommes en Europe?
Je pense pas, parce que la Russie, c'est pas l'Irak, c'est pas la Libye, c'est pas la Serbie, c'est pas le Mali. Donc c'est un grand pays nucléaire qui a une puissance nucléaire, une puissance de frappe nucléaire. Ils peuvent carrément anéantir le monde entier en quelques minutes. C'est qu'ils ont 6500 ogives nucléaires, c'est pas un pays avec lequel on va s'affronter volontairement. Donc c'est sûr que j'exclus cette idée d'envoyer des centaines ou des dizaines de milliers de soldats. Il va y avoir certainement des agents de la CIA, peut-être des experts militaires qui vont donner des idées ou qui vont certainement conseiller les Ukrainiens, mais une confrontation directe avec les Russes, pour moi, ça me paraît impensable et impossible.
Vous n'êtes guère rassurant cher Taoufik Djebel. Et vous n'êtes guère rassurant parce que quand on connaît la mentalité russe, finalement, on se dit que maintenant, oui, tout est permis. Ils peuvent faire tomber ça tout comme est... un jeu de domino avec les pays baltes ou la Pologne même.
Oui, oui, oui. Mais à mon avis, c'est un aventurier, mais il connaît peut-être, ou je l'espère en tout cas, il connaît les limites. C'est que une attaque contre un pays membre de l'OTAN n'aura pas les mêmes répercussions qu'une attaque contre l'Ukraine. C'est que le statut d'être membre de l'OTAN change la donne et l'Europe et les États-Unis ne peuvent en aucun cas rester immobiles face à une agression russe. Donc aujourd'hui, c'est sûr, beaucoup de monde, beaucoup de pays ne veulent pas vraiment payer les frais pour des Ukrainiens. Quand il s'agit d'un membre de l'OTAN, la question devient une question d'existence pour l'Europe. Et je pense que là, ça serait extrêmement dangereux pour les Russes et pour le monde entier. Pour l'instant, je pense que ça va rester au niveau de l'Ukraine et ça se passe mal pour Poutine, pour le Kremlin, et les Européens et les Américains feront tout pour faire échouer son intervention et l'affaiblir à la fois chez lui politiquement et affaiblir la position russe dans le monde.
Alors c'est important ce que vous dites là sur le plan psychologique, parce que vous êtes en train de me dire finalement que si on s'attaque à un membre de l'OTAN, alors là le coup de poing sera beaucoup plus fort, hein, on va boxer beaucoup plus fort, là le combat sera différent. Oui. Mais pour l'instant, dans la sémantique, dans les propos de la Commission, oui, européenne, de nos ministres européens, voilà, de manière générale, ils semblent dire c'est le coup de poing, il faut taper sur Poutine, c'est-à-dire qu'ils semblent dégager toute leur force sur l'Ukraine, comme si déjà, oui, l'Ukraine était dans leur tête un membre de l'OTAN. C'est-à-dire que, donc à partir de là, le vrai combat, oui, peut être lancé pour Poutine et aller même jusque vers les membres de l'OTAN, puisque les autres ont charge de la même manière, riposte de la même manière que si c'était un membre de l'OTAN, l'Ukraine. Tout est permis intellectuellement.
Tout est permis, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre un pays membre et un pays non membre de l'OTAN. Et d'autant plus que l'Ukraine et la Russie, c'est une histoire en partie commune. Donc quelque part, il y a toujours, c'est ce que Poutine essaye de montrer aussi, d'insister sur ce parcours ou cette histoire commune qui pourrait justifier en quelque sorte, de son point de vue à lui, justifier une intervention. Maintenant, avec les autres membres de l'OTAN, moi je pense que ce serait à la fois de son... Peut-être il ne sera pas peut-être aussi fou pour intervenir dans un pays membre de l'OTAN. Et pour les Européens, s'il le faisait, je ne sais pas quelle serait la réaction militaire, une confrontation. D'ailleurs, c'est le sens même de la dissuasion nucléaire, c'est d'éviter la confrontation directe. Et généralement, jusqu'à aujourd'hui, on a vu des guerres comme ça déclenchées par proxy, si j'ose dire, c'est-à-dire par des intermédiaires. Une confrontation directe n'a jamais eu lieu, et si elle a lieu, c'est que les conséquences seraient dramatiques pour le monde entier. Donc, je ne suis pas sûr que Poutine ferait l'aventure européenne au-delà de l'Ukraine, et je ne suis pas sûr que les Européens feraient une démarche pour confronter et pour se confronter à Poutine déjà en Ukraine. Donc des aides militaires, certes, des conseillers, c'est fort possible, des volontaires peut-être européens de tous bords, on va les laisser partir, mais de là à envoyer l'armée pour s'opposer à l'armée russe en Ukraine, je l'exclus pour l'instant.
Vous semblez vous exprimer comme si les forces de l'OTAN, les forces européennes pouvaient faire peur à Poutine, comme si c'était quelqu'un de un gros gaillard qui était face à lui. Et est-ce que nos armées ne sont pas déjà très affaiblies? Voilà, aussi. Et est-ce que Poutine le sait finalement? Mais évidemment, nous, dans la presse, Même la radio d'État en France, la télévision d'État, nous dit qu'en cas de guerre forte contre l'armée russe, l'armée française tiendrait 10 jours. On a 10 jours à peu près de munitions. Si nous-mêmes, on le sait, sans avoir accès à des secrets d'État, en lisant les blogs de France Télévisions, vous voyez, ou de BFM, pensez bien que le Kremlin le sait aussi. On ne va pas leur faire peur, alors.
La France est la 7e puissance militaire du monde. Selon des rapports, les munitions tiendraient 10 jours et l'aviation tiendrait 2 semaines. Donc finalement, c'est sûr que là, on n'est pas au même niveau que les Russes. Mais sauf que là, ça ne sera pas la France en face à la Russie. Ça sera plutôt les Européens plus les Américains. Et on voit même... toute agression aujourd'hui, c'est pas facile finalement d'envahir un pays comme ça. On passe comme si, voilà, le peuple se soumet tout de suite à l'envahisseur. Tout ça, c'est du passé. Et on a vu que les Américains, la première puissance mondiale, n'a pas tenu en Afghanistan au-delà de 20 ans. Ils n'ont pas vraiment fait des miracles en Irak. On voit les conséquences finalement d'une intervention étrangère. Elle est vouée à l'échec. Les peuples n'acceptent pas la soumission aujourd'hui. Et donc, finalement, je pense que la Russie face à l'Europe, elle ne peut pas, si évidemment, si on utilisait là, si l'option nucléaire est sur la table, là, c'est le calcul
non,
est
non,
différent.
Non, j'exclus l'option là, nucléaire, car je pense que...
L'option nucléaire, elle n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit.
Voilà, c'est pour ça, je l'exclus là, dans mon raisonnement.
Oui, voilà. Une armée classique, conventionnelle, face à la Russie, en Europe, à mon avis, ils ne font pas le poids. Mais avec l'appui des Américains, ils peuvent évidemment anéantir la Russie. Ça, c'est sûr.
Ce qui est très important, c'est les peuples, l'opinion publique. Et voilà. Poutine connaît l'opinion publique occidentale, peut-être aussi bien que nous. Est-ce qu'on n'est pas dans des... Il y a deux choses que j'additionne dans mon raisonnement. Qui n'est pas une affirmation, hein, c'est une interrogation, Taoufik Djebali. Donc, je suis très humble hein, dans ce que j'affirme, dans ce que je dis. Hein, je vous interroge, c'est tout. Le premier point, c'est qu'on a eu 2 ans de crise sanitaire qui ont affaibli, faut pas se mentir, nos économies, qui nous ont affaibli moralement, intellectuellement. En plus, au cours de ces 2 ans, on a vu que les peuples européens étaient grosso modo assez soumis. Avait peur que d'une seule chose, c'était de mourir, donc on était prêt à se protéger, prêt à gâcher sa vie plutôt que de perdre la vie. Les philosophes l'ont souvent dit, pendant les confinements, vous gâchez votre vie, vous êtes enfermé chez vous, mais ce que vous voulez, c'est pas perdre votre vie. On le voit que le degré face aux attentats terroristes, etc., consiste à mettre des bougies aux fenêtres. Mettre des bougies aux fenêtres, c'est ça. Est-ce que l'opinion publique occidentale n'est-elle pas déjà très molle, pardonnez-moi de vous le dire?
Moi, pour vous dire la vérité, je le pense. Il y a à la fois l'opinion publique affaiblie par deux ans de Covid, mais aussi, je pense, le peuple européen s'est installé dans un confort qu'il ne veut pas perdre. Et c'est ce confort-là qui rendrait le peuple peut-être un petit peu mou, selon l'expression que vous venez d'utiliser. C'est que on a atteint un niveau de vie, on a envie de le garder. Donc, tout en faisant peut-être, si nécessaire, des concessions d'ordre idéologique, moral, politique. L'importance pour les peuples européens, c'est de maintenir ce niveau de vie. Et c'est sûr que face à la Russie, ça complique un petit peu la situation parce que les Russes ont un autre mode de vie, ils ont l'habitude d'autres choses, et ils se sont accommodés à des dictatures. Et finalement, c'est sûr que l'opinion européenne aujourd'hui, l'opinion publique européenne, n'est pas prête à mourir pour les Ukrainiens dans leur ensemble. Les gens sympathisent avec les Ukrainiens. Il dénonce l'intervention russe.
Oui, mais dénoncer sur Facebook, ça va pas ça qui va faire changer les choses.
C'est ce que je dis. Donc, mais au-delà de ça, je suis pas sûr que les gens sont prêts à faire des sacrifices plus que ça. Et ils sont même pas, à mon avis, prêts à faire des sacrifices sur leur niveau de vie, sur leur confort de tous les jours. Je pense que Poutine, il a un autre calcul. C'est pas la faiblesse des Européens, c'est plutôt un petit peu la folie de. C'est la grandeur de la Russie qui l'intéresse, et s'il avait les moyens, ou plutôt après l'Ukraine, ça pourrait être un pays non européen, c'est-à-dire vers, il pourrait évidemment se diriger vers le sud pour imposer ses règles, ses lois et le nouvel ordre qu'il est en passe d'imposer, en tout cas qu'il
Vous
veut
dites se
imposer.
diriger vers
Donc,
le sud, il l'est déjà. Ils ont des bases en Libye, en Centrafrique, au Sahel.
oui. Donc, je parle d'invasion de pays frontaliers comme ça vers le sud. Il pourrait le faire, mais pour l'instant, l'Ukraine, je crois, par rapport à cette question de l'OTAN, c'est certainement un message aux Européens. La Libye, ou le Mali, c'est rien. Je veux dire, les gens ne sont même pas au courant de ce qui se passe là-bas. Par contre, envahir un pays européen, on sait que là, toutes les attentions se focalisent sur Poutine. Donc finalement, c'est un message, et le message, c'est que il faut compter avec la Russie dorénavant, et que la Russie de Yeltsin n'est pas la Russie de Poutine aujourd'hui, et que la Russie d'il y a 20 ans ou 30 n'est pas la Russie de 2022. Donc finalement, je crois, on est plus dans le message envoyé plutôt aux Américains, mais à travers les Européens, à travers l'attaque sur l'Ukraine, mais aussi il y a un jeu qui, à mon avis, commence à se dégager ces dernières années, c'est que au lieu d'avoir une domination presque totale des Américains, là il y a les Chinois qui, sur le plan économique et même militaire, émergent comme une superpuissance aujourd'hui, et la Russie ne veut pas perdre cette compétition pour mener le monde, dominer le monde. Il y a les Chinois, certes, il y a les Américains, certes, mais Poutine insiste pour que ce soit aussi la Russie.
Alors c'est facile de dire après quand c'est trop tard, on aurait dû, ou il n'y a qu'à Faucon. Mais est-ce qu'on aurait dû finalement, clairement, respecter finalement l'ordre naturel des choses sur l'expansion de l'OTAN face à la Russie? Et l'ordre naturel des choses aurait été finalement de garder des bases militaires de l'OTAN fortes dans les pays historiques de l'OTAN, et pas chercher à grappiller des kilomètres carrés, et entourer la Russie de bases de l'OTAN pour chatouiller le nounours. Parce que le nounours, il peut être gentil, il dort, il a son territoire. C'est comme dans la nature. Voilà, finalement, on vous dit c'est l'ours qui est là avec toute sa famille. Si vous allez mettre votre tente dans le cercle défini par l'ours, il va venir pour vous chipoter. Si vous êtes de l'autre côté, l'ours n'y va jamais, il vous laissera tranquille.
Oui, ça c'est la grande question, à mon avis. C'est que l'OTAN est une organisation liée à la guerre froide. Autrement dit, théoriquement, sur le plan théorique, l'OTAN n'a plus de raison d'être même, puisque c'était pour faire face à l'Union soviétique. Or, ce qu'on a vu, c'est que suite à l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN a insisté pour se rapprocher du territoire russe. Et je crois que c'était certainement les Européens, les Américains ont certainement mal géré l'affaire, et ils ont pris la Russie presque avec mépris dans cette histoire. Quand la Russie était à genoux, les Européens n'ont pas fait vraiment du cadeau, n'ont pas fait de cadeau aux Russes. Et dans ce cas-là, ça suscitait évidemment chez les Russes ce sentiment d'humiliation, mais aussi l'envie de prendre leur revanche sur les Européens et les Américains. Donc, moi, je pense que l'expansion de l'OTAN vers l'Ukraine, c'était juste un prétexte, mais à mon avis, c'est une démarche que moi, je pense, était maladroite.
Dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est l'enseignement pour les décennies à venir sur la gestion de nos pays européens. Et je vais préciser ce que je vais vous dire. D'abord, actuellement, la Russie, Poutine, depuis plus d'une vingtaine d'années, a pensé à désendetter son pays, a pensé ne plus être tributaire de la dette extérieure. Il a été très traumatisé par toutes ces dettes qu'il y avait à la sortie du communisme. Et on peut dire, c'est pas soutenir Poutine et être poutinolate que de dire ça, que sur le plan financier, il a quand même bien géré les caisses de son pays. La fiscalité y est très faible. Il a su ensuite industrialiser son pays, pratiquement le faire vivre en autarcie. Donc tout ça a été planifié pratiquement depuis 20 ans. Voilà, si on veut faire une guerre, on sait que les sanctions internationales, couper le réseau SWIFT, etc., les conséquences, on ne va pas se mentir, sont très faibles pour la Russie. Pendant ce temps-là, nous, on a fait la fête. C'est la cigale et la fourmi. On a fait la fête, on a dépensé de l'argent, on n'a pas réduit nos dépenses publiques et on a une armée qui peut tenir 10 jours. Ça me fait penser à avant la Seconde Guerre mondiale, on disait il fallait s'armer, travailler plus, et on disait non, il faut instaurer les congés payés. On dit ben, c'est peut-être pas le moment de faire les congés payés parce que Hitler est en train de s'armer. Et Hitler peut être méchant. Mais nous, on a dit non, on était sur les plages et on faisait les congés payés. Et puis après, est arrivé ce qui est arrivé. Est-ce que l'histoire est en train de se répéter? Et est-ce que comme la moralité de tout cela, c'est qu'il faut réapprendre, quitte au sacrifice que cela va nous coûter, à redevenir des pays forts et puissants, c'est-à-dire sortir de la dette publique, de la dépendance extérieure, se réindustrialiser?
Là, je ne sais pas si l'histoire se répète. Maintenant, Poutine, quand il a industrialisé son pays, quand il a créé un système financier parallèle à SWIFT, quand il a redonné de la puissance à la Russie, je ne sais pas si il y a 20 ans plutôt, il avait en tête d'envahir l'Ukraine ou un pays européen. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a fait, moi je pense que chaque chef d'État, chaque responsable politique devrait faire. C'est-à-dire, devrait faire, pas sur le plan politique, je veux dire, je ne prône pas une dictature ou un système extrême autoritaire. Juste quand on parle de propulser son économie, donner de la fierté à son peuple, agrandir ou renforcer les classes moyennes, ça c'est on devrait le trouver partout. Donc finalement, il a fait ce qu'il devait faire. Par contre, ici en Europe, n'oublions pas aussi que au moment où lui il construisait ou il renforçait son économie, la France, les États-Unis, on était en guerre aussi. Je veux dire, à part évidemment les choix politiques, mais là on ne va pas entrer dans une discussion sur le budget de l'État et comment il est géré. On ne va pas entrer dans les discussions sur l'action gouvernementale. Mais n'oublions pas aussi que en tant qu'Européen, en tant qu'Américain, il y avait énormément de pertes d'argent parce qu'il y avait des interventions malheureuses et parfois injustifiées dans des pays du monde que évidemment n'avaient pas la même importance que l'Ukraine, mais qui on a démoli des pays, on a déstructuré des sociétés parce qu'il fallait il fallait garder cette puissance ou cette image de puissance et cette réputation de policier du monde ou autre. Mais en tout cas, moi je pense, hein, je parlais, c'est plus les Américains, oui. Mais les Européens aussi ont
avec la
présence,
Libye, par exemple.
La Libye, le Mali, l'appui aussi à la guerre du Golfe en 91. Donc, il y avait quand même pas mal de choix politiques qui étaient contestables. Donc, finalement, je pense que l'histoire se répète, pas toujours de la même façon, pas toujours avec les mêmes éléments. Et là, évidemment, je pense que cette crise avec l'Ukraine et l'intervention russe, elle n'a pas d'équivalent, peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Et en vous écoutant, je pense vraiment à ma dernière question, parce que là, c'est vous qui m'avez fait penser à ça. J'ai interrogé un historien qui s'appelle Philippe Fabry, et lui, il n'exclut pas qu'il n'y ait peut-être pas une guerre à l'échelon européen, mais que ce conflit entre les États-Unis et la Russie se fasse sur des terrains d'opération extérieurs entre pays. Il a pris l'exemple, par exemple, du Maroc et de l'Algérie. Est-ce que l'on peut craindre que la Russie, alliée de l'Algérie, le Maroc, allié des États-Unis, eh ben que la Russie continue de via l'Algérie, de titiller le Maroc sur la question du Sahara occidental, et que déjà les deux pays sont en état de guerre presque. Ils ne sont pas en guerre physique, mais ils sont en état de guerre. Oui. Est-ce qu'on peut penser que là aussi, il faut s'inquiéter ?
Oui, bien sûr. Oui, je pense que oui, mais tout dépendra, bien entendu, de l'issue de cette guerre. Si les Russes sortent renforcés par cette intervention, si finalement les choses se passent comme prévu pour Poutine, on peut imaginer une Russie offensive, une Russie peut-être agressive ailleurs, et dans ce cas-là, on peut imaginer des conflits qui poussent partout. Ça, c'est une possibilité. Si maintenant la Russie, si la guerre, finalement, si ça s'enlise, et si finalement l'Ukraine devient une sorte de bourbier pour les Russes, je pense pas que les Russes feraient quoi que ce soit pour intervenir ailleurs, et ça va les affaiblir effectivement à l'échelle internationale. Donc on peut imaginer ce conflit-là, mais au cas où, la situation, en tout cas, passe plutôt convenablement pour les Russes en Ukraine. Ce qui ne me semble pas, pour l'instant du moins, ne me semble pas être le cas. Donc, à mon avis, une confrontation directe, elle n'aura pas lieu, mais les conflits parallèles faits ou orchestrés comme ça par d'autres pays, on va en voir certainement. Ça a toujours été le cas depuis la guerre froide. Et c'est-à-dire, on fait la guerre à travers, par le biais de quelques d'autres pays. Voilà. Et c'est comme ça. Peu importe ce qui se passe dans ces sociétés, peu importe ce qui se passe à ces peuples-là, tant qu'ils font l'affaire et tant qu'ils jouent le jeu stratégique de ces pays-là.
Merci Taoufik Djebali. Vos étudiants ont bien de la chance, voilà, de ressortir
persuadé
par vos
Merci.
Études. Vous êtes spécialiste des relations extérieures américaines, maître de conférences en civilisation américaine à l'université de Caen, Normandie. Merci, Taoufik Djebali.
Merci à vous. Merci.